Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis à Ringside et vous écoutez le podcast officiel des Cahiers du Catch. Ici, toutes les semaines, on commente, on analyse, on résume Monday Night Raw, l'émission phare de la WWE. Et avec moi aujourd'hui, pour s'occuper de tout ça, l'extraordinaire Amiral Armbar. Comment ça va, Amiral ?
Salut, ça va très bien. Écoutez, bienvenue tout le monde pour ce Monday Night Raw.
Monday Night Raw du 2 octobre à Denver, dans le Colorado. Au programme de ce soir, qu'est-ce qui nous attend ?
Ouais.
Festival de passage à tabac, Bray Wyatt est traumatisé, Mickey James a un admirateur secret, et Enzo Amore fait le main event.
Mickey James a un admirateur secret en 2017.
Ouais. C'est vrai. Et pas un mec qui a du goût, qui sait comment faire plaisir aux femmes. Une minute de silence pour démarrer le show, hein, en hommage aux victimes de Las Vegas. La WWE est touchée hein, par le drame. Et on démarre très fort une affiche de pay-per-view, hein, de main event de pay-per-view, Seth Rollins contre Braun Strowman. Donc, l'action ça démarre tout de suite. Esquive sur esquive de la part de Rollins jusqu'à ce que Strowman le propulse à peu près 4 mètres du sol pour l'écraser au sol. Rollins il réussit à se défendre, mais un dive est contré par un méchant coup de poing juste avant la pub. Strowman d'ailleurs va contrer à peu près toutes les prises de risque de Rollins durant le match. On va aller s'exporter à l'extérieur. Chacun son tour, on s'envoie dans le poteau. Rollins enchaîne deux topés suicida, puis deux springboard clothesline. Une fois que Strowman est remonté dans le ring, il va enchaîner encore sur un blockbuster, une droite, un super kick, mais le faux Rainmaker, son coup de genou là, est contré par une puissante clothesline.
Par un vrai Rainmaker du coup.
Voilà, un vrai Rainmaker, mais de la part de Braun Strowman. Impressionnant. Strowman, voilà, il enchaîne sur le Power Slam et c'est la victoire de Strowman qui va ensuite s'acharner sur Rollins. Et voilà, encore le Power Slammer. Et ça sent mauvais pour Rollins jusqu'à l'arrivée de Dean Ambrose qui va attaquer Strowman mais qui va vite se faire plier. Le monstre parmi les hommes est trop puissant, donc voilà, il s'est débarrassé des deux anciens membres du Shield.
Et deux champions par équipe.
Deux champions par équipe également, hein. N'oublions pas qu'ils sont champions ces deux-là.
Et oui.
Voilà, qu'est-ce que tu as pensé là, de ce démarrage de show direct dans l'action, direct dans la violence ?
Ce qui est bien, c'est quand il commence avec un match comme ça, cette volée Rollins contre Strowman, tu sais que tu vas passer un bon début de show. Comme on disait la semaine dernière déjà, toi et moi, hein, en ce moment, il y a des matchs de la NFL, donc la Ligue de football américain, donc du coup, ils modifient un peu leur aménagement de show en mettant des gros events, des gros segments, des gros matchs, pas forcément à la fin, puisqu'à la fin, pas mal de gens vont switcher, du moins ils estiment qu'ils switchent sur la chaîne du football américain. Donc du coup, un Rollins Strowman, comme on s'y attendait forcément, Strowman invincible quasiment, pas totalement, mais survole la carte en termes de power ranking, il est bien haut, même plus fort que donc l'architecte Seth Rollins, et donc son comparse Dean Ambrose qu'il avait démembré la semaine dernière. On savait qu'il allait avoir ce match, commencer direct avec, c'est plutôt pas mal, plutôt qu'un segment un peu mi-figue, mi-raisin, comme on a l'habitude avec le GM qui débarque. Je préfère qu'on commence tout de suite avec un gros match annoncé, surtout qu'il y aura un autre au moins gros match annoncé pour un titre plus tard, donc c'est une plutôt bonne façon de commencer, ouais.
C'est vrai, c'est ça qui est bien depuis le départ de Stephanie McMahon et compagnie, c'est qu'on a des débuts de show qui sont souvent un peu plus intéressants, direct sur des gros matchs ou des choses comme ça, donc c'est toujours mieux qu'une demi-heure de blabla de Stephanie McMahon.
Parfois il y a des segments où il y a des storylines qui nécessitent, mais là, par rapport à ce qu'on va voir, par rapport à la suite, c'est pas plus mal de le mettre maintenant pour un départ en fanfare, comme on dit.
Ouais. Et puis donc Strowman toujours super fort, ce qui est bien cool, hein, parce qu'il faut vraiment plus qu'il perde, hein, Strowman. Il faut qu'il reste le monstre invincible qu'il est.
D'ailleurs, quel avenir pour Strowman, monstre invincible, d'accord, mais clairement il est au-delà, on va dire, je pense, de mon point de vue, de la ceinture intercontinentale.
Ouais.
Vu qu'il a eu une grosse construction ces derniers mois jusqu'à son match contre Brock Lesnar vers la ceinture universelle. Donc c'est un peu le problème de ces catcheurs super forts qui sont à top card mais qui n'ont pas la ceinture. Et qui ne peut pas prétendre à un autre title shot, là c'est pas possible. Peut-être que va y avoir plus tard un retour, comme je disais la semaine dernière aussi, entre Reigns et Strowman avant le Reigns-Lesnar. Mais qu'est-ce que tu lui fais faire à Strowman
Ça, c'est la
pour
question. Moi, je.
le garder fort mais qui ne gagne pas de titre en fait?
Moi,
C'est
je l'aurais
compliqué, hein.
exporté à SmackDown, mais
Ouais, et bah,
après.
y a des rumeurs par rapport à ça. Enfin, des rumeurs, c'est plus ou moins des suppositions. C'est juste qu'il y a beaucoup de suspicions comme quoi Kevin Owens va changer de brand, va repasser à Raw. Actuellement, il est aux mains avec Shane McMahon pour leur match à Hell in a Cell ce dimanche. Et il y a beaucoup de spéculations comme quoi il va quitter SmackDown, puisque plusieurs fois dans ses promos, Kevin Owens avait encensé le management de Stephanie McMahon, justement, le management de Raw. Donc il y a des suppositions comme quoi Owens va partir et qui pour peut-être le trader, bah, pourquoi pas Strowman. Strowman est un des noms qui est ressorti, ce qui permettrait d'ouvrir d'autres possibilités pour le géant dans une autre cour de jeu, parce que c'est vrai que là, il va tourner un peu en rond, hein, à Raw.
Ouais, carrément, ouais. Ce serait gagnant-gagnant à mon avis, hein, parce que
Ouais.
Kevin Owens, sa place, elle est plutôt à Raw. Et Strowman, bah, il serait très bien à aller éclater Jinder Mahal, façon Ultimate Warrior, quoi. Hein. Il vient en 30 secondes, il leur prend la ceinture, et puis c'est réglé, hein, pas besoin de builder plus. Et puis après, c'est le Strowman Show. Hein. Moi, ça me plairait bien. Hein. Ça me plairait bien. Alors, c'est pas tout à fait fini, hein, cette histoire de Rollins et Ambrose,
Non.
puisque Sheamus et Cesaro débarquent. Hein. Et ils viennent en remettre une couche. Donc, Neutralizer sur Ambrose, Brock Kick sur Rollins. Sheamus et Cesaro s'imposent encore un peu plus face aux anciens du Shield.
Ouais, enfin là, ils sont venus ronger les os, quoi.
C'est vrai.
C'est les deux
Mais au
autres
moins, c'est.
étaient déjà KO par terre. Ça montre vraiment là un opportunisme violent qui peut faire sens sur la suite
C'est
de
ça.
l'épisode d'Euro.
On se plaint souvent des heels qui sont idiots. Hein. On avait eu les Gallows et Anderson qui faisaient souvent des coups qui se retournaient contre eux parce que c'était souvent des trucs idiots à faire. Là, au moins, c'est intelligent. Ils viennent quand les mecs sont aplatis, puis ils viennent en mettre une couche. Donc, on ne sait que ce soir, donc il y aura Reigns contre le Miz pour le titre intercontinental. Mais la suite, ça se passe dans les coulisses avec Mickie James, très en beauté. Qui croise bah, Alicia Fox et Emma qui sont en train de glousser sur son passage. Là, ça rigole. Alors, elle voit bien qu'il se passe quelque chose. Mickie James, qu'est-ce qui se passe? Alors, on lui dit, bah écoute, il y a un petit admirateur secret qui t'a laissé des cadeaux dans ta loge. Donc, on apprend déjà que Mickie James a une loge, hein, c'est pas mal. Donc, elle débarque dans sa loge et là, effectivement, il y a des paquets, il y a des cadeaux, mais c'est d'un goût un peu douteux puisque c'est un déambulateur et des couches d'aisance un peu. Pour la pauvre Mickie James, hein, on lui rappelle qu'elle est vieille.
Qu'elle a donc des fuites urinaires, certainement. C'est
C'est
le
ça.
message, l'information importante de ce segment.
Ce qui est un peu embêtant hein, quand on est en plein match. Voilà, donc là, elle est furieuse, hein, forcément, Mickie James, parce qu'en fait, elle n'est pas si vieille que ça, puis elle n'a pas de fuite urinaire. Donc, elle va aller traverser les couloirs, elle va toquer chez Alexa Bliss, qui a aussi sa loge. Mais c'est Nia Jax qui ouvre la porte. Hein, c'est elle, le garde du corps. Hein, voilà, on fait la videuse. Bon, il y a Alexa Bliss qui est derrière, qui lui dit écoute, moi de toute façon, je refuse d'affronter une senior, hein, mais Nia Jax, elle, ça la dérange pas. Donc voilà, le Mickie James, elle se démonte pas. Il dit bah d'accord, bah, j'affronte Nia Jax. Et ce soir, on aura un affrontement entre Mickie James et Nia Jax. Bah, je te propose qu'on fasse le match tout de suite.
Allez, comme ça c'est fini, pesé,
Comme ça,
emballé. On
c'est
n'en parle plus.
réglé. Donc, Nia Jax est accompagnée d'Alexa Bliss, hein, qui reste ringside. Bon, c'est essentiellement des bear hugs, hein, des prises de l'ours. Voilà, Mickie James, elle se fait bien malmener. Bon, des fois, elle répond avec des coups de pied assez violents, des coups de poing assez violents. Elle va placer au final. Un violent tornado DDT. Là, on pense que Nia Jax est clouée pour le compte, mais Alexa Bliss vient casser le tombé. C'est une victoire par DQ pour Mickie James, disqualification de Nia Jax. Ensuite, Alexa Bliss va tenter de rosser Mickie James, la passer à tabac, mais c'est elle qui se fait corriger. On l'envoie dans la barricade, on lui met un super kick dans la face. C'est bien Mickie James qui sort gagnante cette semaine. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça?
Alors, dans ce segment, ce qui est important qu'on voit finalement, c'est la re-alliance Alexa Bliss et Nia Jax. Puisque
Ouais.
dès la nouvelle, elles n'étaient plus vraiment en affaire, hein, vu qu'elles étaient affrontées lors du Fatal 4-Way. Donc, bon, ça pourquoi pas, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, on n'a aucune explication, il n'y a rien, il n'y a pas une discussion backstage qui aurait pu être surprise par une caméra qui pourrait te donner l'explication de ça. Donc c'est un peu bizarre, ça fait un peu catapulté, un peu comme cette rivalité avec Mickie James hein, pour Alexa Bliss. Bon bah là, que Nia Jax ait besoin de l'intervention d'Alexa Bliss pour gagner contre Mickie James, c'est super cheap, dans le sens mauvais du terme pour moi, en termes de booking hein, par rapport à Nia Jax. Et voilà, ça fait vraiment le match monter de toutes pièces en attendant qu'Asuka débarque, hein, ce qui est la meilleure chose de toute cette histoire de cette soirée, c'est la vidéo package d'Asuka, où on voit différentes catcheuses NXT qui sont maintenant le main roster, qui parlent d'Asuka avec des montages vidéo, et moi je suis hypé comme un fou, et voilà quoi.
Ouais, on attend Asuka, hein. Là, c'est un peu effectivement le remplissage.
Ouais.
Le match, hein, effectivement, c'est une grosse domination de Nia Jax, et puis le fait qu'elle perde, c'est quand même bizarre. Mais on voit qu'Alexa Bliss, Nia Jax et compagnie, elles ont bloqué le main event. Hein, maintenant, c'est elle qui, enfin, le main event des filles, hein, c'est elle
Oui, mais
qui tourne autour de la ceinture.
je suis pas d'accord. Elles sont bloquées de par leur booking aussi, parce que Nia Jax, ils sont pas décidés à lui faire prendre le titre d'Alexa Bliss en one to one. Elle se trouve impliquée dans le match à ceinture dans un Fatal 4-Way ou 5-Way, je sais 5-Way. Et elle perd, mais c'est comme si elle oubliait le titre. Et ça, j'aime pas trop parce que clairement, elle était plus ou moins écrite dernièrement en NXT, comme ça, effectivement, qui décide, ça y est, maintenant, je vais dominer la division moi-même. Et là, d'un coup, c'est un revirement qui est pareil, qui est pas expliqué, quoi. Donc, c'est pas tellement qu'elle squatte la ceinture et le haut de la carte, c'est que leur écriture font que ça marche pas, en fait. C'est ça le problème. C'est pas qu'elle squatte, c'est ça le problème.
Mais c'est parce que je pense qu'il y a un problème entre elle et Sacha Banks et Bayley. Visiblement, elles s'aiment pas entre elles, donc du
Mais
coup,
ça, à
ils
limite,
ont
c'est pas
séparé les
grave.
deux.
Là, les storylines sont séparées, mais ils arrivent à rien faire quand même, quoi. Donc,
Bah ouais, bah parce que du coup, voilà, faut jouer avec les égos, et puis forcément, ça donne pas.
c'est pas la première fois dans la WWE et d'autres promotions d'ailleurs, où il y a quand même des bonnes storylines qui sont écrites et jouées, impliquant des catcheurs qui peuvent pas se blairer, quoi. Enfin,
Ouais, généralement, ça donne pas grand-chose, hein. Les matchs sont généralement pas très bons, et puis, mais.
Je sais pas. Je suis sûr qu'il y a des contre-exemples. Mais bref, le débat n'est pas là.
Oui, voilà, mais bon, en tout cas, voilà, est-ce que c'est vraiment intéressant? On voit quand même qu'ils ont, voilà, ils sont sur avec Sablis en ce moment, jusqu'à ce que Asuka arrive. J'espère qu'ils ont quand même vraiment prévu de mettre Asuka super haut. Et puis après, pour les
Oui, ouais.
Four Horsewomen, on verra un peu plus tard ce qui se passe pour elles,
Bah, c'est
mais.
des trucs qui vont décorréler de toute façon. Hein. Les Four Horsewomen, donc de la WWE contre celle de la UFC, ça va être décorrélé là, c'est des ceintures. Donc, ils peuvent prendre ces deux programmes de front, c'est pas un problème.
J'espère. Je
Ouais.
préparais beaucoup de boulot pour les bookers de la WWE. Je ne suis pas optimiste là-dessus.
Oh, je pense que de toute façon la feud des Four Horsewomen sera pas écrite par les gens qui coachent, qui gèrent la division
Ouais, ça va
féminine,
être pris
mais
en main par Vince.
comme une major storyline quoi. C'est une storyline tellement il y a marqué dollars partout quoi. Enfin, si t'arrives à voir les Ronda Rousey, ses trois copines du UFC contre Charlotte et les autres, ça va être mainstream à donf. Donc
Money, money,
ah ouais.
money, money, money. Bon, tout ça, bah, en attendant, hein, c'est Mickie James contre Alexa Bliss.
Voilà, c'est la conclusion de
C'est la
ça.
conclusion.
Ils peuvent faire des jolis trucs plus tard, mais pour l'instant, on a Alexa Bliss contre Mickie James. Voilà.
C'est ça. Alors, bah, ça a l'air de traumatiser Bray Wyatt, hein, parce qu'il est
Ah
sur
oui.
sa petite chaise à bascule et
Ah, ça va pas
il,
du
voilà,
tout là.
tel un autiste. Il est là, il parle tout seul, il nous dit, elle m'a jamais menti, elle m'a dit de le lâcher mon arc, mes flèches, d'aller le taper à main nue, de l'affronter homme à homme, et elle ne m'a jamais menti. Donc, je pense qu'il parle peut-être de sa coach de vie ou de
Oui,
quelqu'un
c'est
comme ça,
ça.
non?
Voilà, il parle d'une youtubeuse influente, influenceuse, hein, qui regarde souvent, c'est pour ça.
C'est ça,
Voilà.
ouais. Alors, un peu plus tard, on va rester
Ouais.
sur cette rivalité, puisque c'est Finn Bálor qui vient au ring et
Rivalité
qui veut.
digne de Supernatural.
C'est
C'est
vrai,
vraiment
on est
ça.
dans le mysticisme le plus total, le fantastique. Finn Bálor, donc qui vient au ring et qui vient défier Wyatt, hein, il veut le réveiller un petit peu, il est un petit peu inquiet pour son ennemi là. Qu'est-ce qui se passe? Allez, viens m'affronter ce soir. Wyatt arrive sur le Titantron, hein, et bon, en gros, il nous annonce que Sister Abigail est vivante, hein, et qu'elle est impatiente de rencontrer Bálor. Voilà, donc énième tease de l'arrivée de Sister Abigail.
Alors c'est trop bon parce que quand même, Sister Abigail, aux dernières nouvelles, hein, savoir quand Bray Wyatt était à SmackDown, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, hein, avant le shake-up, et qu'il était champion, donc il y avait cette rivalité avec Randy Orton, où Randy Orton était venu profaner la tombe de Sister Abigail, avait mis le feu à la maison, était enterré, etc. Donc en gros, Sister Abigail était morte. Là, on nous dit, bah non, elle est vivante.
Eh
Bon, ok, de toute façon, on est en train de parler de Bray Wyatt, donc acceptons tout ce qui nous est dit comme de la vérité et n'essayons pas de comprendre parce qu'il n'y a aucune cohérence, aucune logique. Donc, du coup.
Se transforme aussi à la fin, j'ai
Ouais,
oublié de le
voilà.
dire.
Ouais, à la fin, on voit, c'est très sombre, mais on voit comme s'il avait un maquillage, il rit, il est superposé à son rire, un rire plus féminin. Donc là, deux possibilités, deux théories qui s'affrontent. Soit ils nous font un match là pour nommer le prochain pay-per-view, donc TLC. Demon Balor versus Abigail Bray, à savoir Bray Wyatt maquillé avec un truc un peu une autre personnalité plus ou moins donc
Du rouge à lèvres et des bas.
Ouais, je verrais plus comme une espèce de clown malsain, enfin un truc bien dérangeant ou alors ils font incarner Sister Abigail par une catcheuse. Et là, il y a plusieurs débats dans cette théorie-là de qui pourrait faire cette catcheuse-là. Alors déjà, du coup, question ringside, tu penses que ça va être quelle version? La version, c'est une catcheuse qui vient ou on customise, on fait du tuning sur Bray Wyatt?
Allez, moi je sens bien la customisation de Bray
Ouais,
Wyatt.
ouais, ouais.
Tu sais, du maquillage qu'on vient de voir,
Je sens bien
ça me
aussi, ouais.
paraît pas mal, ouais.
Je sens bien parce que je vois pas forcément non, dans la réalité là en plus avec Balor comment tu pourrais introduire une catcheuse quoi elle arrive et elle sneak attaque Balor et il peut pas répondre à moins
Ouais, ouais,
qu'ils osent la WWE à refaire du catch homme-femme
ouais.
mais
Non, ça je veux pas.
c'est quasiment inexistant maintenant de nos jours donc du coup mais après admettons imaginons si c'est une catcheuse qui l'incarne. Donne-moi tes deux top names de qui pour l'incarner.
Eh ben, Paige, évidemment. Parce qu'elle est folle.
Ok, non, vas-y,
Et qu'elle serait très bien en maquillage.
Ouais.
Et en deuxième choix, ce qui aurait été pas mal, c'est Nikki Cross, mais elle est avec Sanity, donc ça va être délicat. Ruby Riott pourrait être pas mal, pourrait faire
Ok.
l'affaire.
Paige, j'y crois pas une seule seconde parce qu'elle est trop établie. Elle est ancienne championne NXT, ancienne championne de la WWE, enfin championne Diva. Tu la Elle est trop établie, Paige, pour être rebrandée comme ça, comme étant la sœur diabolique, fantomatique, mort-vivante de Bray Wyatt. Nikki Cross, pareil, elle est dans Sanity. Sanity, ça marche plutôt. Je la vois pas, même si elle aurait les capacités de le faire. Hein. Moi, je verrais bien.
Semeré.
Non. Oui,
Vraiment traumatisé comme ça, Semeré qui
c'est ça.
débarque.
Crazy Mary Dobson, c'est que ça fait appeler Sarah Logan
Ah
NXT et au Million Classic, puisque donc avant dans Circuit Indépendant, Crazy Mary Dobson avait un gimmick avec du maquillage aussi, un truc vraiment creepy, freaky, flippant à la Bray Wyatt finalement, et ça rendait vachement bien. Les visuels sont sur Internet, ça rend vraiment très 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 bien. Une qui serait très bien, ça serait Rosemary aussi. Rosemary, championne ou ex-championne TNA, etc., qui a vraiment un bon look. Mais en tout cas, voilà, mais je pense pas que ça va arriver, quoi. Ou alors d'un très long terme,
Ouais,
mais pas pour de suite.
pas
Peut-être
pour
qu'il
de suite.
arrivera à faire incarner l'âme de Sister Abigail qu'il a en lui dans un nouveau corps, je sais pas. Mais pour l'instant, je verrais plus effectivement un match de maquillage, en fait.
Ouais.
Make-up challenge. Yeah.
Yeah, ça va être. C'est bon.
Too
C'est
sweet.
voilà, on arrive à quand même à sortir des choses de cette rivalité, mais
Ouais. Mais bon, c'est
c'est quand
poussif,
même
quoi. Hein.
bien. Ouais,
Voilà.
c'est poussif, hein, on tire sur la corne. Hein.
La seule chose intéressante, c'est la question, c'est quel maquillage va porter Bray lors du match,
C'est
quoi. Après,
ça,
le reste.
hein, ce qui va se relooker, machin, puis
Voilà.
qu'ils essayent de nous faire encore un bon match, hein, mais ça va être difficile. Alors, voilà le petit intermède de la Locarde, Ilias, hein, au milieu du ring avec sa guitare, qui nous chante encore une belle chanson sur Denver. Là, il détruit tout le public, toute la ville. Hein, c'est toujours une ville de merde. Hein, partout où il passe, de toute façon, c'est toutes des villes de merde. Ce soir, il affronte Titus O'Neil, hein, Titus Worldwide. Hein, la semaine dernière, il a battu Apollo Crews. Et ben, cette semaine, il va battre Titus O'Neil, hein, dans un joli petit match. Donc il gagne grâce à son drift away, Ilias. Encore une fois, il a profité qu'Apollo Crews était sur le côté pour aller provoquer une espèce de distraction. Hein. Il va un peu provoquer Apollo, ça distrait Titus, et puis ça lui permet de gagner le match. Alors on n'avait pas parlé de tout ça, on était passé rapidement dessus. Est-ce qu'on fait la même ou est-ce que t'as
Oui,
quelque
j'ai
chose à...
toujours rien à dire de plus depuis
Toujours rien
la
à
semaine
dire de
dernière.
spécial. Ok.
Non, voilà. Enfin,
Alors, Ilias, quand même, il fonctionne bien. Hein, il fait
oui,
bien
il
réagir
fonctionne
la
bien sur
foule.
ses intros, comme on dit. Hein, ça, c'est établi maintenant. Il arrive à bien faire ça. Ce gimmick marche bien.
Ouais.
Mais c'est juste que pour l'instant, rien d'intéressant dans le ring de ce qu'il donne et rien d'intéressant dans ce qui est écrit. Donc,
Ouais. Mais je pense qu'il y a de l'avenir pour Ilias quand
c'est la
même.
pause musicale, quoi.
Ouais. Et au moins, ça fait réagir la foule. Alors, on va dans les vestiaires. Enzo Amore est interviewé par Renee Young, mais il reste muet. Hein. On lui demande qu'est-ce qu'il pense du passage à tabac qui lui est arrivé la semaine dernière. Voilà. Et pour une fois, il dit rien. Il reste muet et il est encore pire quand il est muet, hein, Enzo Amore, parce qu'il a vraiment une sale gueule. Hein. On apprend que Mickie James décroche un title shot. Hein, c'est annoncé par Kurt Angle dans les vestiaires également, face au micro de Charlie Caruso. Et ensuite, on a un match tag team. Matt Hardy et son nouvel allié Jason Jordan qui vient en slip maintenant, il a lâché la grenouillère,
Oui, ça y est,
affronte.
c'est dommage, puisque le col truc, il a enlevé ses bretelles
Ouais.
qui beuglaient. Moi, j'aimais bien. Il y a même une fois, je sais plus dans quel match, où il avait fait deux fois, il avait enlevé ses bretelles, il avait gueulé, fait son gros spear là dans le coin, puis il avait remis ses bretelles pour refaire une deuxième fois. Je trouvais ça assez cool. Donc là, je sais pas, ça fait un peu plus générique. Je sais pas.
Ouais, il faut lui montrer, il fait bien montrer ses abdos et
Ouais.
ses pecs. Donc, bah, ils affrontent Gallows et Anderson, hein, qui sont un peu en manque de rivalité en ce moment. Donc, ça se bataille sec. Et c'est la victoire des méchants sur un Magic Killer après que Karl Anderson ait neutralisé Jason Jordan en l'envoyant dans la barrière d'insécurité. Donc, bon, mon match classique, il n'y a rien de spécial dedans.
Non, si ce n'est que le Anderson et Gallows ont gagné, ça c'est plutôt cool.
Ouais.
Ça m'aurait vraiment mis des boules, genre absolu. Même si en face c'est Matt Hardy, même si en face c'est Jason Jordan, ancien American Alpha, c'est un peu une tag team qui a deux matchs, son deuxième match seulement. Si Anderson et Gallows avaient perdu contre eux, ça aurait été vraiment la déprime. Et j'ai cru, hein, j'ai cru vraiment qu'il allait avoir une mauvaise nouvelle à la fin du match, même si ça a aucun enjeu derrière. Après, je trouve en plus que ça marche pas vraiment bien.
Hardy et Jordan
Ouais.
ensemble.
Alors c'est bien pour faire que Jordan grignote un peu de la spotlight et de la pop de Matt Hardy éventuellement, parce qu'ils arrivent, ils ont du mal à l'établir en tant que face. Donc pourquoi pas, quoi. Mais franchement,
Tiens, bah, est-ce qu'il pourrait pas foutre Jason Jordan contre Braun Strowman?
oh,
Ha.
ça sera un peu tôt. Ça sera un peu tôt. Je pense que ça serait vraiment le public qui serait à fondre Yastroman et qui acclamerait Braun pour qu'il démembre vivant l'autre dans le ring, quoi, qui se ferait huer à chaque fois qu'il ferait un truc. Donc je suis pas sûr.
Ouais. Ou après vraiment booker Jason Jordan fort qui arrive vraiment à se défendre bien contre Strowman,
Ouais.
ça pourrait essayer de le monter, mais
Enfin,
après ils sont tellement tirés une balle dans le pied avec lui que je sais pas
ouais.
qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le sauver. Hein, c'est.
Faut un peu de temps, faut un peu de temps pour le retravailler, pour refaçonner l'image, etc., quoi. Mais
Ouais. Et encore là, ça va parce que le public de Denver, ils étaient quand même plutôt cool. Ils ont pas
oui.
hijacké le show,
Non,
ils ont
bah
fait des réactions comme il fallait, ils se mettaient un peu derrière lui.
Denver Colorado est un état où tu peux légalement acheter de la marijuana à titre récréatif. Donc je pense qu'ils étaient une bonne partie du public stone. Ils étaient contents de ce qui se passait. Je pense que voilà, ils étaient
Voilà.
cheerful. C'était pas des haters.
Ouais,
Ils
bah
étaient
ça m'a
plutôt
fait
zen.
plaisir bon, de voir un peu hein,
Ouais.
une soirée où le public joue le jeu un petit peu. Parce
Alors
que
t'as
le
vu
pauvre Jason
aussi,
Jordan, c'est chaud pour lui. Hein.
ouais, t'as vu à la fin du match quand même Anderson et Gallows qui font le tout suite pour célébrer leur victoire. Ils ont bien insisté dessus ce soir, hein, je trouve. Et c'est en lien notamment avec, on en parlait un peu la semaine dernière dans le podcast, hein, où il y avait des gens de la New Japan, The Elite, Bullet Club, et notamment les Young Bucks qui étaient arrivés à Raw, du moins dans le parking devant le show. Et là, donc, les Young Bucks réutilisent des phrases, en fait, un peu de la WWE, mais qui sont utilisées un peu partout, le Suck It, du DX, le Too Sweet, du Click, etc. Et donc, il y a un procès actuellement, du moins une menace judiciaire de la WWE
Ouais,
pour
menace, hein.
que les Young Bucks arrêtent d'utiliser ça, notamment le Too Sweet. Donc, est-ce que je sais pas si Gallows Anderson, anciens eux-mêmes membres du Bullet Club, ont eu la consigne de bien insister ce soir sur Too Sweet pour faire un petit message aux Young Bucks ou si c'est leur propre initiative, mais bon, voilà. Petite grille de lecture de ceci qui peut paraître anodin, mais qui ne l'est pas. Et nous sommes aussi là pour
Ouais.
ça.
C'est vrai, c'est vrai. Ça ne passe pas inaperçu. Alors les Young Bucks, hein, ils ont renoncé, hein, ils sont pas cons et ils ont brûlé tous les t-shirts qu'ils avaient, qui étaient, enfin ils en ont brûlé dans leur segment vidéo qu'ils font sur YouTube. Là, ils font une
Ouais.
série vidéo toutes les semaines là, Being the Elite, et ils ont vendu tous leurs t-shirts pour une œuvre de charité et ils partent sur autre chose. Ils sont vraiment très intelligents les Young
Je
Bucks.
crois qu'ils ont déjà fait un t-shirt Cease and Desist, puisqu'en anglais, le
Ouais.
terme pour ce genre de procédure judiciaire, c'est Cease and Desist. Et donc, ils ont fait un t-shirt Cease and Desist, un peu censuré, etc. Donc, et
Ouais.
ça s'est
Alors moi je
vendu, je crois que ça s'est vendu super
ouais
cher de suite. Enfin,
carton complet
voilà.
c'est les plus grosses ventes de septembre je crois sur en 3 jours sur le site de vente de t-shirts la Wrestling Tees
Ouais.
là c'est vraiment des mecs très très intelligents les Young Bucks moi je vous
Niveau
conseille d'aller voir
business,
leur match c'est déjà c'est des catcheurs exceptionnels c'est les rois du spot fest
ouais.
mais vraiment à un
Je
niveau
crois que c'est les catcheurs aujourd'hui en 2017 qui s'en sortent le mieux sans la WWE en fait.
Ouais,
Parce
exactement.
qu'ils sont partout, ils ont des titres partout. Ils peuvent, ils catchent à New Japan, ils catchent dans des petites fédés. Enfin, non,
Non,
c'est
c'est vraiment
Niveau business,
c'est
ils ont vraiment su gérer leur barque. Après, on est fan, on n'est pas fan de leur style dans le ring, hein, ce côté spotfest où
Ouais, mais c'est
un
tellement un
peu.
level au-dessus du Spotfest
Ouais,
que
c'est la parodie limite, mais
Ouais,
c'est fun.
non, mais ça
On l'aime
n'arrête
ou on
pas dans
n'aime
leur
pas
match.
après. Mais en termes business, moi je le reconnais vraiment cette habilité à savoir exister au-dessus de la WWE, enfin au-delà de la WWE, de façon très impressionnante.
Ouais.
Enfin bref.
Mais bon, on n'est pas là pour parler des Young
Non.
Bucks. On est là pour parler de la WWE, notamment le top guy Roman Reigns qui est dans les vestiaires, interviewé par Charlie Caruso. Bon, il est très confiant hein, pour son match de ce soir. Il va exploser le Miz. Il n'y a pas de souci. Dana Warrior vient célébrer les femmes qui ont survécu au cancer. Le Mistourage débarque façon Shield hein, en venant des gradins. Donc le Miz, hein, Curtis Axel, Bo Dallas. On arrive au ring. Et ensuite, c'est Roman Reigns qui débarque, qui est très focus. Hein, il est focalisé sur le Miz. Ça rigole pas. Il s'arrête pas pour regarder la foule comme il le fait d'habitude. Et avant que le match démarre, il démonte le Mistourage. Il explose Bo Dallas. Il explose Curtis Axel. Ça va aller même se poursuivre dans le public. On va monter sous le Titan Tron. On y va à coup de chaise, je crois. C'est parti. Il y a des Superman Punch qui sont lâchés. Voilà, le Mistourage est hors jeu, ça va être du 1 contre 1. Donc, bah,
Et
et
là,
force.
on tremble, parce que
Et là,
c'est pour le titre intercontinental quand même, hein. Il y a la
Exactement, ça peut être
ceinture en jeu.
la fin du Miz est proche. Bah, Roman Reigns, hein, il domine forcément, jusqu'à ce qu'une séquence à l'extérieur permette au Miz de prendre l'avantage. Mais plus loin dans le match, Roman Reigns, le beau Roman, il contre les hit kicks hein, de façon bah, Daniel Bryan du Miz avec une puissante powerbomb. Plus tard dans le match, Reigns va évidemment se relever du skull crushing finale. Mais le Miz survit également à un Superman punch. Et là, Roman Reigns, il est hors de lui. Il va porter les stockades. C'est parti pour un spear. Mais. Il est intercepté par Sheamus et Cesaro. Eh oui, les anciens champions tag team qui étaient là en début de show pour taper Rollins et Ambrose. Ils sont là aussi pour démonter Roman Reigns. C'est la disqualification du Miz, donc qui gagne le match, mais qui conserve, qui perd le match, pardon, mais qui conserve sa ceinture. Et là, c'est parti pour un passage à tabac en règle, pardon, de Roman Reigns.
En règne sur Romagne règle.
Voilà, Roman règle. Donc les trois finishers hein, sont portés, Brock Kick, Neutralizer, Skull Crushing Finale. Bon, évidemment, ça suffit pas hein, pour battre Roman Reigns. Donc on part pour l'outrage ultime, la triple power bomb façon The Shield sur Roman Reigns. Et là, quand même, il est achevé. Et donc ben voilà, Sheamus Cesaro, le Miz, ils font le fist bump, hein, voilà, un nouveau clan.
Ouais, fist bump pimpé puisqu'il y a le Miz au milieu et les deux font la barre, quoi, donc ça fait un voilà. Fist bump barré, je sais pas.
Ouais. C'est ça, un peu bâtard. Ouais. Mais voilà, on a bien compris, il y a un nouveau clan qui vient de se former, le Miz. Et son nouveau mistourage, ben dis donc aujourd'hui, Cesaro, Sheamus, ben voilà, ben qu'est-ce que t'as pensé de ce championnat intercontinental où tu as tremblé, où tu as frémi pour le Miz?
Bon, déjà très content, effectivement, que Roman Reigns ne finisse pas la soirée avec la ceinture, ça aurait été catastrophique, je l'imaginais pas, mais on sait jamais, il n'y a jamais zéro risque. L'intervention de Sheamus et Cesaro à la fin du match était un peu étrange. Au début, tu dis tiens, mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils font là? Parce qu'ils n'ont aucun beef avec Roman Reigns actuellement. Le seul, c'est que par ricochet pour atteindre Rollins et Ambrose. Donc ça veut dire que c'est Sheamus et Cesaro qui d'eux-mêmes se jettent dans une embrouille avec Roman Reigns en plus, en essayant de récupérer à leur côté le Miz et peut-être son mistourage. Pourquoi pas? Donc, on nous avait teasé la semaine dernière, effectivement, un mistourage versus le Shield. Ça n'arrivera pas, ça n'arrivera jamais. On aura donc peut-être un Miz et Cesaro. Donc, c'est M. Cesaro. Plus peut-être Bo Dallas et Curtis Axel aux alentours versus le Shield. C'est ce qui semble pointer le bout de son nez. Hein. Donc,
ouais. C'est ça, c'est ce qui va faire les affiches de Main Event, je pense, tant que Brock Lesnar est parti. Ben voilà, on avait dit le Miz, il avait sa place dans le Main Event. Enfin, pour moi, j'étais convaincu hein, que sa place était encore plus haut dans la carte. Ben voilà, on voit dès que Brock Lesnar est parti, hop, il s'incruste. Cesaro, Sheamus, c'est pareil de toute façon. Et puis encore plus pour Rollins et Ambrose, hein, puisqu'ils ont, ils ont été aussi les top guys pendant un moment chacun, même si ça n'a pas matché comme on l'aurait voulu. Enfin, surtout du côté d'Ambrose, hein, qui n'a peut-être pas fait le boulot comme il fallait. Rollins, bon, lui, il a été court-circuité par sa blessure.
Peut-être qu'on parle voilà. De la toute fin de show, du coup, pour.
Ouais. La toute fin, l'épilogue du show. On est encore une fois dans les vestiaires. Roman Reigns se remet difficilement de son passage à tabac. Il tousse. Ça prouve qu'il est, en souffrance.
Oui.
Et voilà. Arrive sur sa droite Dean Ambrose, le Lunatic Fringe. Tout ça est silencieux, hein. Pas un mot n'est dit. De sa gauche arrive Seth Rollins. On se regarde. Et puis voilà, on sent bien que ça va se passer. On se lève et après, Dean Ambrose se retire, Seth Rollins se retire, chacun de leur côté. Ouais. Mais c'est teasé, la réunion du Shield.
Ouais, c'était voilà, entre la fin du passage à tabac où il y a donc les trois, Cesaro, Sheamus et Miz qui font leur fist bump du Shield. Et le public qui boue ça, qui hue ça, et ce segment à la fin de show dans le vestiaire avec les trois qui se regardent, qui se font des signes de tête sans aucun mot, ces deux segments-là sont géniaux.
Ouais.
On prend toujours ergoter sur oui, mais est-ce que c'est le bon moment, le bon move pour Sheamus et Cesaro de venir chercher querelle à Roman Reigns en plus de machin, etc. On s'en fout. Ces deux segments-là sont bien. Le match peut être vraiment très très cool.
Ça peut être énorme. Hein.
Et en plus, c'est le truc logique qu'il doit faire effectivement avec Roman Reigns. C'est le seul moyen qu'il leur reste peut-être pour lui faire regagner plus de pop que de hits. Vu tout ce qu'ils ont essayé qui n'a pas marché, c'est peut-être reformer effectivement le Shield en les gardant face. En plus, les trois sont face dans leur alignement là, donc c'est un peu.
Ouais.
C'est comme ça, très, très, très malin. C'est ce qu'il faut faire, ce qu'il fallait faire et ils ont raison. Après, est-ce que ça va suffire? Est-ce que peut-être ça durera que le temps où il sera dans le Shield et quand il retournera en solo, peut-être que ça redeviendra comme avant? Mais en tout cas, pour le moment, c'est très bien.
Ouais, il va falloir voir les retombées économiques de tout ça, parce que c'était quand même la machine à fric, le shit, pendant un moment. Donc voilà, bah on est reparti avec eux. Moi, ça me fait plaisir de voir tout le monde comme ça monter dans le main event pendant que Brock Lesnar est un peu en vacances. On va voir de quoi ils sont capables à nouveau. Hein, est-ce qu'ils ont tiré les leçons un peu des échecs du passé? Je suis content de voir le Miz aussi haut, Sheamus aussi, Cesaro. Bah voilà, ça fait des années qu'on dit qu'il faut qu'il soit au top. Bah il y est là
Ouais,
maintenant.
ça c'est le vrai bon point en plus de tout ça, c'est pas tellement la réunification du Shield, même si c'est trippant dans un sens, c'est vraiment l'exposition que ça a donné à ces trois-là, ces trois heels de l'histoire qui sont d'excellents middle card, top middle card, et là c'est vraiment le moyen d'avoir un projecteur bien plus gros sur leur match, sur tout ça, donc c'est bien.
Puis on sait la qualité des matchs qui peuvent sortir. Donc
C'est
voilà, tout ça
mérité.
s'annonce très bien, c'est mérité, on est content. Bon, on va pas rester content longtemps puisqu'il reste encore quelques petites choses à faire. Sasha Banks et Bayley affrontent Alicia Fox et Emma. Et
Alicia
donc à
Fox, quoi.
Alicia Fox. Ben après, au bout d'un long match qui était horrible, Emma abandonne Alicia Fox à son triste
Ouais.
sort. Et c'est la victoire des gentils avec un Bayley to Bayley. Bon, voilà, ça avance un petit peu au niveau d'Emma, qui est plus méchante que méchante, hein, puisqu'elle abandonne Alicia Fox.
Voilà.
Voilà.
Hashtag rien à foutre. Voilà
Rien à
Emma.
foutre, et puis
Voilà Emma,
c'est.
le hashtag de la semaine. Hashtag rien à foutre.
Hashtag rien à foutre, là, tu seras trendé ça worldwide. Ouais, non, c'est pas. On va passer parce que c'est trop triste, quoi. Voilà, Bayley, c'est dommage. Sacha Banks, c'est dommage aussi. Et puis Alicia Fox, elle est nulle, hein, il faut commencer à le dire. Hein, le match était affreux. Affreux, le match. On arrive au main event. Enzo Amore et les Cruiserweight. 2 semaines de suite qui font le main event et ça, il s'en vante. Enzo, hein, il a le micro, il est au milieu du ring. C'est parti pour une promotion comme il en a le secret. Voilà, donc il nous explique encore que voilà, tout le monde est contre lui, mais que c'est quand même lui la machine à fric. Il a mal partout, il a mal au dos notamment, mais c'est parce qu'il est là à porter la division Cruiserweight, à porter tout au Five Live. Évidemment, il y a tout le vestiaire des Cruisers qui débarque. On vient l'entourer, donc attention, il y a une nouvelle clause. Si on touche Enzo Amore, maintenant on est viré, hein. Donc c'est parti. Il commence à se foutre de la gueule de tout le monde en prend pour son grade. On traite Brian Kendrick de clochard, hein. Tu ressembles à un clochard, mon pauvre Brian. On se moque des fringues de Cédric Alexander. On se moque un peu de TJP qui a pas de poils, hein. Donc il lui demande de frapper. Tu ramèneras ta carte d'identité la prochaine fois parce que je voudrais pas être accusé d'assaut sur mineur.
C'est très bon ça.
C'était, ouais, voilà, ça percutait. Il y a Drogulak, t'es venu en costard, tu vas pouvoir te foutre à côté de Corey Graves. Voilà, donc tout le monde est canardé. Mais Kurt Angle débarque. Et il nous annonce qu'effectivement, hein, il n'y a aucun cruiserweight du roster qui peut frapper sur Enzo. Mais il a un nouvel arrivé, Kurt Angle. Il a signé un nouveau catcher qui va pouvoir s'occuper d'Enzo. Mais qui cela peut-il bien être, hein? Johnny Gargano, je ne sais pas, Austin Harris qui revient. Eh bien non, bien mieux que ça, musique de Flipper, et c'est le petit luchador Kalisto qui débarque. Lucha, 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 lucha. Il vient et il pète la gueule à Enzo Amore. Il vient dans un costume affreux, hein, il est en slip à moitié à poil.
On dirait un méchant de XOR ou des
C'est
Bioman ou de
ça,
Power Rangers,
voilà,
une
c'est
espèce de
ça
lézard
exactement.
dragon armure, c'est ah là là.
Ridicule.
C'est la barre de rire là, c'est la barre de rire.
Bah, c'est la barre de rire. Donc voilà. Donc après, bon, on enchaîne sur l'épilogue avec le Shield, mais c'était ça la fin du show. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Enzo en feu, hein, moi je trouve qu'il est admirable dans
Oui,
sa promo. Mais alors, pour terminer
la
sur
promo était bien, il y avait des bonnes vannes, etc. C'était cool. On se doutait forcément qu'avec cette clause, ben, on avait parlé déjà la semaine dernière, hein, aucun mec de 205 peut le défier pour le titre, donc il faut forcément quelqu'un de nouveau. Donc Kurt Angle arrive, on s'y attend, c'est normal. Qui disent ce qu'il a dit, que ça ne concerne pas, donc du coup ces clauses, le nouveau membre de 205, du Cruiserweight Division, on s'y attend. Là, il est là, Toro, il y a le hype, il y a un petit silence, effectivement, on se dit, mais. Et là, quand
Qui ça?
j'ai entendu la musique, j'ai pas reconnu au début, je fais,
Ah ben voilà,
c'est quoi cette
toujours.
merde? Et après, je vois l'autre débarquer, je vois Nakubonosor 28, démon de l'espace qui débarque. Oh putain, et Kurt Angle était là, on aurait dit qu'il avait. En fait, je pense qu'il a pas compris Kurt Angle, il pense qu'il a signé Rey Mysterio.
Ouais, c'est
Ah, c'est
ça.
ça. Non, 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 non. Le mec était déjà dans ton putain de show, était déjà à Raw. C'était un nul, un peu comme Enzo dans l'ombre. Enfin, là, ça marche pas, quoi.
Un mec qui a
Il a
fini dans
été.
une poubelle il n'y a pas si longtemps.
Voilà, il a été champion US, c'est vrai, mais bon. Ouais, two time, ouais. Qui s'en souvient? Moi,
US
j'ai
Champ,
jamais oublié
qui
une
s'en
fois.
souvient, ouais.
Donc, du
Face à
coup,
Alberto
non.
Del Rio.
Callisto, quoi, c'est.
Pff, la tristesse.
C'est assez. Comment monter un truc avec un cliffhanger et mettre un truc anticlimatique derrière quoi, c'est vraiment ça quoi, c'est
Le public était calmé,
Non
hein.
non non,
Pouf.
le public, j'ai regardé, il y a des quand même pas mal de gens qui font le
Ouais, il y avait
lutchapping
des. Ils aiment bien
parce que
ça.
bah, Enzo était tellement un connard sur le segment et depuis 2-3 semaines que forcément en plus un public comme tu l'as dit au début du podcast qui suivait les trucs, qui applaudissait les face, qui huait les heels. Donc forcément là-dessus ils acclament le face qui va sauver et qui va
Ouais,
galvaniser
mais c'était
la
pas
frustration de tout le monde.
l'explosion qu'on pouvait
Non.
attendre de
Bah
l'arrivée
non.
d'un nouveau catcheur dans
Bah,
Monster, hein.
Johnny Gargano, effectivement, ça aurait popé un truc de malade. Non, c'est moi ce que j'ai noté, c'est l'indifférence un peu générale des catcheurs de 205, des Cruiserweights qui étaient autour, qui étaient là. Il y en avait deux, trois qui applaudissaient comme ça, je crois, mais c'était. Il n'y avait aucun qui était là, genre, ouais, vas-y, pète-lui la gueule. Non, non, on s'en fout, quoi.
Ah,
Kalisto,
et puis.
donc Kalisto qui va défier, qui va seulement reprendre le titre à Enzo Amore, c'est ce qui nous attend, quoi,
Bon,
mais.
je parierais pas là-dessus. Mais en tout
Bah.
cas, le match. T'imagines le match quand même, Kalisto qui botche à peu près tous les trois prises et Enzo Amore qui sait rien faire. Ça va être ça.
En plus, au micro, ça va être dégueulasse.
Ah, ouais.
Parce que Enzo Amore est très bon au micro, mais c'est pas le cas de Kalisto.
Ah bah tout faire
Kalisto est très mauvais. Ça avait été mon choix, je crois, dans la pire promo des Awards Catch-Up 2016.
Des Lucha
Voilà, sa promo du draft. Ouais, je suis content
Things.
d'aller à SmackDown, en gros, je pouvais aller pour faire mes Lucha Things, mes trucs
Ouais,
Lucha.
merde.
Mec! Mec, hombre, c'est pas possible.
Hombre, c'est pas
Donc au
possible.
micro, ça va être dégueulasse, voilà. C'est super.
Ouais, moi j'ai regardé 205 Live pour voir un peu
Ah
ce qui
ouais?
se passait.
Moi j'ai
Ben,
pas regardé cette semaine.
Bah Enzo toujours voilà, il leur fait le show comme il sait le faire et puis Kalisto et, bah, il a fait une promo en comment on appelle ça moitié espagnol moitié anglais qui était super triste quoi et puis après je sais plus il a fait un match qui était ennuyeux voilà ça va être difficile pour Enzo hein, de faire monter la sauce pour tout ça et qu'on reste intéressé mais voilà c'était l'ascenseur émotionnel là, ce main event voilà allez allons boucler tout ça on a fait le tour c'est l'heure du mot de la fin un top un flop et une note nous t'écoutons amiral
Mon flop, Alicia Fox. Alicia Fox.
allez
Horrible.
chat bon,
Ne
c'est
plus la
horrible
mettre
ouais.
dans le ring avec Sasha Banks, Bayley et Emma, s'il vous plaît, merci. Mon top, bah, ce serait, comme je disais, les deux segments silencieux de ce faux Shield Hill avec le Miz et Zero Sheamus et le segment de fin avec le passage avec les trois vrais Shield, hein, voilà, qui était. C'est juste superbement fait. Et en termes de notes, bah, ça va être 1-3-5. Voilà, il y a des bons
Ok.
segments, quelques bons matchs, mais il y a aussi de la purge, il hein, faut dire. Et puis cet anti-climax à la fin avec Kalisto, ça fait perdre 0,5 points à lui tout seul.
Ouais, d'ailleurs, ça va être mon flop, Kalisto,
Ouais,
sauveur de la
je te laisse.
division. Voilà, je prends le top. Je vais le mettre. À qui je peux mettre mon top? Allez, je vais le mettre. Ilias Sanson, je trouve qu'il a fait
Oh.
bien réagir la foule. J'aime bien avoir une progression comme ça d'un catcher.
OK.
S'il continue comme ça, il y a moyen d'arriver à quelque chose. Parce que le reste était plutôt pas mal, mais pas top. Donc je mets 3,5 aussi. Je me suis pas ennuyé. Mais bon, on n'est pas resté sur le cul et c'était trop anticlimatique la fin. L'arrivée du Shield, on la sent venir quand même depuis un moment. C'est joliment exécuté quand même et voilà, on est hypé pour la suite. Voilà, alors c'est l'heure de l'autopromo, hein, donc je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur iTunes, sur PodCloud, sur YouTube, la chaîne des Cahiers du Catch. On est aussi sur Twitter, hashtag CatchUpCDC. On est aussi sur Facebook, c'est CatchUpCDC également. Pensez à vous abonner, hein, c'est gratuit, comme ça vous serez averti dès qu'il y a une nouvelle émission qui sort. Pensez à aller regarder la review, par exemple, de No Merci, hein, qui est disponible là depuis un moment. Et on a le supplément SmackDown qui va arriver très très rapidement. Donc abonnez-vous, il est peut-être déjà là avant nous, on ne sait pas. Mais c'est ce qui suit pour savoir qu'est-ce qui arrive à Jinder Mahal. Comme ça, vous n'avez pas besoin de regarder SmackDown, hein, parce que
Ouais.
c'est un peu chiant SmackDown en ce moment.
Et il y aura une review, bien sûr, pour elle.
Exactement. Ça, c'est la semaine prochaine, dès au plus rapidement possible. Voilà, abonnez-vous, c'est gratos. Amiral, je te remercie beaucoup d'être venu.
Bah, je t'en prie, un plaisir.
Plaisir
Comme
partagé.
toujours.
Et puis, bah, les amis, on vous dit à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Ciao, ciao.
Salut!